Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Ubijame ovo vrijeme gara, svuda lopovi, a nigdje para. Reko si mi ide, odlazim u svijet, lako ćeš me naći, imaš internet.
Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe d'Accent d'Europe vous souhaite le meilleur pour 2023 ici sur le vieux continent ou ailleurs. Le vieux continent, cette périphrase n'aura jamais sonné si juste. L'Europe vieillit. Sur les 450 millions de personnes de l'Union européenne, une sur cinq a plus de 65 ans. Le phénomène va s'accentuer encore dans les prochaines années et cela contribue au déclin démographique de l'Europe. Les Balkans sont particulièrement touchés par le phénomène. En cause donc le vieillissement de la population, mais aussi la baisse de la natalité et l'émigration. Le phénomène est si rapide en Croatie qu'on peut craindre pour l'avenir. Dans l'arrière-pays, la jeunesse s'en va massivement, notamment vers l'Allemagne. Les régions se transforment en désert. Les autorités semblent dépassées par l'ampleur du phénomène. Un reportage dans la région de Slavonie, signé Louis Seyé.
L'une de mes meilleures amies est partie immédiatement après le lycée. Elle est allée en Allemagne. Mon père est parti en Allemagne. Ma grand-mère et ma tante sont là-bas. Je connais tellement de gens qui sont partis.
Comme Carla, les Croates sont nombreux à faire le même constat. Le pays se vide de ses habitants. À seulement 19 ans, cette jeune serveuse ne compte pas travailler longtemps dans les cafés de cette petite ville, située à 100 km au sud-est de Zagreb.
Ici, la plupart des boulots sont sous-payés et il y a peu de possibilités. Aussi, on ne peut pas faire respecter nos droits au travail. Je ne sais pas comment le dire autrement. Partout, les gens travaillent pour des salaires trop faibles. C'est souvent des horaires compliqués, ils ont très peu de temps libre. Et je ne sais pas, mais ici, il n'y a vraiment pas de perspective.
Centre sportif, médiathèque et même incubateur de start-up, à Novska, ces dernières années, l'Union européenne a financé de nombreuses infrastructures afin de revitaliser l'économie locale et contrer un chômage qui touche près d'un jeune sur trois. Mais même avec ses investissements à plusieurs millions d'euros, la jeunesse continue de quitter la Slavonie. Un exode rural que déplore Lucia. Elle est bénévole dans de nombreuses associations de Novska.
Je peux dire qu'à certains égards, c'est très difficile d'attirer les jeunes. Peu importe le nombre d'activités et ce qu'on leur propose pendant leur temps libre, ils ne voient pas trop ce que ça leur apporte. C'est vrai qu'aujourd'hui, les opportunités ne sont pas extraordinaires. Dans le futur, il faudrait qu'il y ait davantage de beaux projets pour qu'ils rencontrent ici de nouvelles personnes et fassent de nouvelles connaissances. Ça pourrait réellement nous aider à dynamiser la vie locale. Récemment, il y avait un projet où ils pouvaient même obtenir des bourses, mais on avait du mal à convaincre les jeunes d'y participer.
Depuis son indépendance de la Yougoslavie il y a 30 ans, la Croatie a perdu près d'un million d'habitants et ils sont aujourd'hui moins de 4 millions à résider dans le pays. Dans le même temps, le taux de natalité est tombé à 1,4 enfants par femme. Résultat, le pays connaît l'un des déclins démographiques les plus rapides du monde. Le démographe Stjepan Štrc.
La Croatie se trouve dans une situation démographique très difficile. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul indicateur démographique positif. Entre les deux derniers recensements, la Croatie a perdu plus de 400 000 habitants, ce qui représente près de 10% de la population totale. Cela s'explique en partie par l'émigration, mais aussi par le déclin naturel, c'est-à-dire la supériorité du nombre de décès par rapport à celui des naissances. Et si l'on fait une projection pour dans 10 ans, et que l'on observe de façon objective la situation, les choses vont vraiment empirer. En fait, tous les systèmes de base du pays seront remis en question.
Si la capitale et les grandes villes très touristiques de la côte adriatique voient leur population augmenter, le reste du pays se dépeuple et vieillit à grande vitesse. En Slavonie, comme dans d'autres régions rurales, on souffre déjà du manque d'infirmières, d'ingénieurs ou d'ouvriers agricoles. Une tendance qui s'est encore accentuée depuis que le pays est entré dans l'Union européenne en 2013.
Au niveau national, le dépeuplement est de 10% de la population totale. Mais dans certaines régions comme la Slavonie, cela atteint même les 20%. C'est incroyable. Dans certaines municipalités, la population a baissé de plus de 50% en 10 ans. Et on voit très bien dans quels endroits la Croatie se dépeuple. C'est principalement dans les zones frontalières, les zones rurales, dans les régions montagneuses ou insulaires. Ces régions commencent à être véritablement menacées. Et l'absence de stratégie pose même un problème pour la sécurité nationale.
Plutôt que de recourir officiellement à l'immigration, le gouvernement conservateur a lancé le programme « Je choisis la Croatie ». Entre autres mesures, les expatriés croates se sont vus offrir jusqu'à 26 000 euros pour revenir au pays et lancer leur propre entreprise. Mais près d'un an après, seules 80 personnes ont tenté l'expérience.
L'Italie, c'est la population la plus âgée au monde après le Japon. Face au vieillissement des Italiens, mais aussi face à une chute continue des naissances qui bat des records, la nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a fait de la relance de la natalité une priorité de son gouvernement ultra-conservateur et une devise « Dieu, patrie, famille ». À Rome, les précisions de Blandine Hugonnet.
Les Italiens ne font plus d'enfants, ou en tout cas pas assez. C'est le constat de toutes les études démographiques de la botte. Depuis les années 90, la population n'a cessé de diminuer jusqu'à un niveau historiquement bas aujourd'hui. L'an dernier, moins de 400 000 petits Italiens ont vu le jour. L'Italie est tombée sous la barre des 59 millions d'habitants et le nombre de décès dépasse désormais les naissances. Les couples italiens sont en effet parmi les Européens les moins féconds, avec à peine plus d'un enfant par foyer. Il faut dire que les difficultés économiques n'encouragent pas à fonder une famille. Une femme sur deux est sans emploi en Italie et dès le premier enfant, elles sont la moitié à abandonner une carrière inconciliable avec la maternité. À cette dénatalité s'ajoute le vieillissement. Plus vieux pays d'Europe, l'Italie compte le plus de 60-naires. Résultat, le déséquilibre entre actifs et inactifs se creuse. Pour le camp progressiste, il faut donc compter sur l'immigration. Opportunité pour maintenir à la fois la natalité et l'économie, alors que d'ici 15 ans, un tiers des Italiens sera retraité. Mais parier sur les étrangers ne fait pas partie des plans de la souverainiste Giorgia Meloni. Pour affronter cet hiver démographique qualifié d'urgence, la chef de gouvernement d'extrême droite a confié son nouveau ministère de la famille et de la natalité à Eugenia Rocella, une figure conservatrice qui promet une politique nataliste. Pour le budget 2023, 1,5 milliard d'euros sont destinés à doubler les allocations pour les familles nombreuses, mieux rétribuer les congés parentaux et baisser les taxes sur les produits liés à l'enfance. Mais pas de quoi inverser la tendance italienne au déclin, alertent les spécialistes qui annoncent des prévisions pessimistes. Selon l'ONU, d'ici la fin du siècle, l'Italie risque de perdre encore un tiers de ses habitants.
En Scandinavie, les politiques natalistes ont longtemps permis d'enrayer le déclin démographique des populations, mais en Suède, le taux de natalité ne cesse de chuter. Depuis 10 ans, on compte désormais 1,6 enfants par femme, c'est moins qu'en France. Alors que le pays a fait de la possibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle la pierre angulaire de son modèle, et que ses politiques familiales sont très incitatives, comment cela s'explique-t-il ? Élément de réponse avec Carlotta Morteo à Stockholm.
Ce n'est pas loin d'être un mystère, nous dit Gunnar Andersson, chercheur en démographie à l'université de Stockholm, qui coordonne la plus importante étude sur la natalité en Suède. Parce que, d'un point de vue national, rien n'a changé dans la politique familiale, elle est toujours aussi généreuse. Mère et père se divisent 480 jours de congé, soit un an et quatre mois à la naissance d'un enfant. La compensation financière n'a pas bougé, la place en crèche gratuite est toujours assurée à partir des 1 an de l'enfant, sans compter les parcs à jeux à chaque coin de rue. On ne peut pas non plus dire que la situation économique des foyers se soit réellement dégradée, les salaires, le capital, les possibilités d'emprunt, tout cela est resté relativement stable. Alors quoi ? Eh bien, le seul facteur que les chercheurs ont identifié, c'est un changement de perception, l'impression que l'avenir est plus incertain, et ce, d'un point de vue mondial. Dans les sondages, les Suédois, mais aussi leurs voisins norvégiens et finlandais, pointent du doigt les guerres, les populismes, le climat, les crises financières potentielles. Tout cela suffit à leur saper l'envie de procréer. D'ailleurs, plus les personnes, via leurs réseaux sociaux notamment, sont confrontées à des nouvelles internationales pessimistes, moins ils font d'enfants. Un résultat de mauvais augure pour toutes les sociétés où l'on vit le même genre de saturation médiatique. Et c'est une impasse pour la Suède, puisque les chercheurs n'ont identifié aucun levier de politique intérieure qui pourrait être actionné pour relancer la natalité.
Qu'est-ce qu'on est bien à la baraque, t'es au petit soin chez la mama, t'es ma. Le grand dadais que t'es à l'âge que t'as, c'est là que t'as poussé, t'es pas pressé, génération Tanguy. C'est la 35e année du Tanguy. Sous ce toit, sous coup toi, tu vas pas squatter là toute ta vie.
Une Europe qui vieillit et des jeunes qui quittent de plus en plus tard le nid familial. Précarité, emploi, coût du logement. Mais pas seulement, on voit ça avec vous, Clémence Pénard.
Les jeunes auraient du mal à claquer la porte de chez leurs parents chéris. En Europe, c'est un véritable phénomène de société, avec tout de même des disparités d'un État à l'autre. Les champions de l'indépendance, les Suédois, qui abandonnent leur statut de tanguy dès leurs 19 ans. Autre pays, disons, plus précoce, le Danemark ou bien la Finlande, où les jeunes partent vers 21 ans. Et puis, à l'autre extrémité de l'échelle, on a le Portugal. En moyenne, les Portugais squatteraient leur chambre d'ado jusqu'à leurs 33 ans et demi. Cet envol tardif, on le rappelle, vers ses 26 ans en moyenne aujourd'hui en Europe, s'explique par le chômage. Évidemment, l'éternel grand méchant. Forcément, sans travail, difficile de se lancer dans la vie. Mais ce n'est pas la seule explication, d'après Anna Ludwinek, chercheuse à Eurofind, fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Il y a aussi le sujet des emplois précaires. Et même si beaucoup de personnes disent « oui, mais c'est normal quand on est jeune et qu'on débute sa carrière », le problème, c'est que souvent, pour beaucoup de ces jeunes, ce travail instable, temporaire, va durer bien plus longtemps que pour leurs parents dans le passé. Et puis, l'autre facteur économique très important, c'est le coût de l'immobilier, qui, bien sûr, est lié au coût de la vie en général.
Et à cela s'ajoutent d'autres raisons, selon Anna Ludwinek, comme par exemple des parents peut-être un peu trop présents.
Au cours des dernières décennies, les parents ont de plus en plus managé la vie de leurs enfants. On a ce terme des parents hélicoptères. Les parents planent constamment au-dessus de leurs enfants. Donc, c'est peut-être aussi de leur faute si leurs enfants ne sont pas assez indépendants.
Au-delà de tous ces facteurs, c'est aussi la vie en soi qui a changé. Avant, les jeunes suivaient un chemin tout tracé, en quelque sorte. On quitte l'école, on trouve un emploi. Ensuite, c'est le moment de se mettre en couple. Tic-toc, tic-toc, boum, le mariage. Pour notre génération, c'est plus trop comme ça.
Je pense que la transition est devenue moins linéaire ou prévisible. Et puis, tu peux quitter la maison de tes parents, mais encore une fois, le coût de la vie, et surtout maintenant, avec les prix de l'énergie, etc., ça te frappe tellement fort que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de revenir chez eux pour quelques mois. Tu redéménages et ainsi de suite.
Et on appelle ça la transition yo-yo ou boomerang. Vous comprenez l'idée. Une expression beaucoup moins négative, en tout cas, que celle de génération perdue ou pourri gâtée, impliquant l'idée que ces jeunes sont des êtres fainéants. En Angleterre, ce sont les basement dwellers. Ils habitent au sous-sol de chez leurs parents et sont comparés à des parasites ingrats. De l'autre côté des Alpes, les bamboccioni, les gros bébés, ou bien les mamoni, les fils à maman, désignent ces Italiens qui tardent eux aussi à couper le cordon. Ils font même l'objet de caméras cachées dans lesquelles des mamans font croire à leur grand enfant qu'il est chassé de la maison. Et là, c'est le drame. Mais en Italie, les choses risquent de changer. L'été dernier, un père divorcé a intenté une action en justice pour ne plus verser de pension alimentaire à son fils. Un fils de 35 ans vivant toujours avec sa mère. Et la Cour de cassation italienne a donné raison au père. Une décision historique qui pourra faire jurisprudence et peut-être donc changer la donne au pays de l'enfant roi.
En 2023 est la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine qui dure depuis maintenant plus de 10 mois. À l'aide européenne pour tenter de mettre un terme au conflit, il faut ajouter des sanctions contre Moscou. Mais les sanctions, est-ce que c'est efficace ? On fait le point avec Franceline Beretti dans son œil européen.
L'Union européenne a décidé de sanctions contre une trentaine d'entités. Des dictatures comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Syrie, mais aussi des pays à la gouvernance jugée défaillante comme le Liban ou Haïti, ou des organisations comme le groupe Wagner. Mais il y a sanctions et sanctions. Il y a celles décidées par les 27, contre la Biélorussie, la Chine, et celles qui viennent des Nations Unies. Bruxelles n'a pris aucune initiative contre l'Irak ou la Somalie. Elle suit l'ONU. Ça peut paraître évident de suivre l'ONU, sauf que tous les pays ne sont pas d'accord avec elle.
L'incapacité du Conseil de sécurité à agir de manière décisive pour la paix et la sécurité internationale est inexcusable. Voilà la déclaration de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, juste après les résultats du vote.
C'était en 2020 quand le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé les sanctions contre Téhéran. Depuis, le régime iranien n'a pas franchement fait preuve de bonne volonté. Il y a de tout dans ces sanctions, de l'interdiction d'octroi de visa à certaines personnalités à l'interdiction de vente d'armes, en passant par les sanctions économiques pour isoler un régime. Si vous voulez faire du business avec Pyongyang, ça va être compliqué, alors qu'avec la Moldavie, pas de souci. Alors qu'elle est aussi dans la liste des pays sanctionnés. Mais ces sanctions fonctionnent-elles ?
Vote à l'unanimité du Conseil de sécurité sur un élargissement des sanctions contre la Corée du Nord. Le gel d'avoir ou l'interdiction de territoire concerne 4 nouvelles entités et des responsables nord-coréens. Des dispositions en représailles à la poursuite de son programme d'armement.
Ça, c'était en 2017. Et 5 ans plus tard, en Corée du Nord...
Les images sont impressionnantes. Le lancement d'un missile balistique intercontinental... Mais pas n'importe lequel, car il peut être équipé d'ogives nucléaires et sa portée peut atteindre 15 000 km, capable donc de frapper n'importe quelle partie des États-Unis.
Et voilà, ceci dit, dans certains cas, les sanctions fonctionnent. Selon un article de The Conversation, plus l'État concerné est faible et démocratique, plus elles ont des chances de marcher parce que la pression fonctionne, ce qui n'arrange pas nos affaires en ce moment avec la Russie. Et puis les États arrivent parfois à s'accommoder pas trop mal des sanctions économiques, comme par exemple la Biélorussie, qui a réussi à se réorganiser. Autre problème, l'Europe n'a pas une énorme marge de manœuvre sur ses propres sanctions. Écoutez la chercheuse Agathe Demaret, elle était invitée du podcast Le Collimateur. Elle raconte les nouvelles sanctions inventées par les États-Unis et appliquées en 2015 quand ils sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien.
Elles peuvent toucher l'ensemble des entreprises dans le monde qui feraient du commerce avec des entités sous sanctions, donc par exemple iraniennes ou russes. Les États-Unis ont dit exactement ça à un certain nombre d'entreprises européennes qui, elles, disaient « Mais attendez, l'Union européenne est toujours dans l'accord nucléaire iranien », mais les États-Unis disaient « Si vous restez là-bas, vraiment aucun souci ». Mais par contre, sachez que vous allez tous tomber sous sanctions primaires américaines.
En gros, l'ONU peut faire voter des sanctions ou les lever, l'Union européenne peut imposer ses propres sanctions, Washington est d'accord ou pas, mais sa puissance économique est telle qu'à la fin, les États-Unis contraignent tout le monde, ou presque, à les suivre.
Le quartier de Battersea fait peau neuve dans le sud-ouest de Londres, sur les bords de la Tamise. Les immenses cheminées de la centrale électrique de Battersea marquent le paysage depuis un siècle. Elles ont enfin été rénovées et accueillent désormais un centre commercial et des logements de luxe. Marie Billon.
Cette centrale électrique n'a jamais vraiment été comme les autres. Son architecture art déco l'a toujours démarqué. Les colonnes striées des 2 grands halls principaux où se trouvaient les générateurs, les décorations sur les portes et les façades typiques de l'art longiligne des années 30. Et ces 6 millions de briques sont cochons volants entre les cheminées blanches aussi. Alors le cochon géant flottant n'était pas permanent, c'était une installation des Pink Floyd pour la pochette de leur album Animals en 1977. Mais cette image fait partie des symboles de la culture déjantée du Londres de l'époque. La centrale était alors encore en exercice, elle ne fermera qu'en 1983. Et depuis, plusieurs projets de transformation sont tombés à l'eau, parfois à mi-parcours, notamment celui d'en faire un parc d'attractions. Mais le nouveau Battersea a gardé un peu cette idée. Les londoniens et touristes peuvent visiter l'une des cheminées si connues. Il suffit de prendre un ascenseur aux parois de verre pour gravir ses 109 mètres. La cabine dépasse alors du haut de la cheminée et la vue panoramique sur Londres est imprenable. Le serpentage de la Tamise, Big Ben, la grande roue de Londres, on voit tout. On a même une belle vue sur les penthouses et autres appartements de luxe qui viennent juste d'être construits dans et autour de la centrale électrique. Car c'est tout le quartier de Battersea qui est en cours de régénération et du haut de l'ascenseur, on voit bien que les travaux ne sont pas terminée. Cette transformation de l'ancienne centrale électrique a ses fans et ses critiques. Elle est devenue un temple de la consommation, tandis que l'autre centrale qui lui ressemblait à l'est de la capitale est devenue le Tate moderne, un temple de la culture, un musée gratuit.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.